Bonjour à toutes et à tous. Mon nom c'est Yuta, je suis à Manas et j'aimerais partager avec vous aujourd'hui un exercice d'Aikitaizo extrêmement simple qui ne paye pas de mine, qui ne coûte rien qu'un petit peu de temps et qui, chaque fois que je me l'offre, me rapporte beaucoup. Il s'agit de l'exercice des 7 micro-mouvements. Cet exercice se pratique allongé sur le dos, couché sur une couverture ou un tapis. Si c'est plus confortable, on peut caler une couverture roulée sous les genoux légèrement pliés et ou une serviette pliée sous la tête. Je conseille de préparer une autre couverture à proximité pour, si besoin, pouvoir se couvrir facilement et se créer un cocon chaud. Quand vous vous êtes installé, on peut commencer. Voilà, on se trouve tous allongés sur le dos. On peut ajuster un petit peu la symétrie des deux côtés, s'aligner sur la verticale, tout en étant couché, bien sûr, avec les pieds un petit peu plus écartés que les hanches. Et si possible, si c'est confortable, les paumes tournées vers le haut. Entre buste et bras, la place pour un petit oisillon. Nous ne pouvons pas nier que nous percevons la terre à plusieurs endroits de notre corps. Allons. Allons voir de plus près. C'est comme une balade qui commence dans les talons. Où et comment et dans quelle forme est la surf est-ce que je touche la terre? Probablement, c'est pas la même zone à droite et à gauche. Oh, et voilà, il y a un endroit où je ne sens plus la terre. C'est le petit pont de la cheville. Promenons-nous par-dessus ce pont et observons où nous retrouvons la terre. Probablement dans le bas du mollet. Faisons une petite visite dans cette zone qui touche le sol dans le mollet. Percevons sa forme, sa taille, sa longueur, sa largeur. Et on arrive à cet endroit où on quitte le sol pour le petit pont derrière les genoux. Traversons ce pont et observons attentivement où nous retrouvons à nouveau le contact avec la terre. Peut-être c'est dans les cuisses, peut-être dans le bassin. Peut-être à gauche ailleurs que à droite. Quoi qu'il en soit, dans les fesses, dans le bas du dos, dans le bassin, c'est certain, nous sommes posés par terre. De quel poids, de quelle forme, de quelle taille est-ce que je touche la terre dans le bassin? Mais il y a un point où nous quittons de nouveau le sol, le petit pont des reins, du creux des reins. Traversons ce pont-là pour retrouver terre, peut-être au milieu du dos, peut-être plutôt dans le haut. C'est évident, la terre me touche dans le milieu et ou le haut du dos, ou au juste. Quelle empreinte est-ce que je laisse dans le tapis ou dans la couverture, dans toute cette zone du milieu et du haut du dos, peut-être les omoplates? Poursuivons la petite balade le long du bras qui nous vient d'abord à l'esprit, celui qui nous est plus présent. Et promenons-nous petit à petit, le long de toutes ces zones de contact, dans ce bras avec la terre, déjà jusqu'au coude, ensuite entre le coude et le poignet, et ensuite dans certains endroits, certaines zones de la main. Plutôt dos de main, plutôt tranchant, plutôt paume. Si je reviens sur mon axe, je entame le petit voyage de l'autre côté. Où est-ce que je perçois le sol entre l'épaule et le coude, entre le coude et le poignet, dans la main. Si je reviens sur l'axe, il y a ce point où je quitte le sol pour traverser le pan de la nuque. Je me promène par-dessus ces pans et je trouve terre dans le dernier point d'appui, l'arrière de la tête, l'arrière du crâne. Un petit point, une surface relativement petite. Peut-être ronde, probablement pas vraiment au milieu. Si j'ouvre mon attention maintenant sur moi dans ma globalité, je peux peut-être me percevoir couché dans le sol. Avec toutes mes zones de contact, ce qui nous donne une forme, une empreinte. Un peu comme quand, en tant qu'enfant, on s'est laissé jeter dans la poudreuse et qu'on s'est relevé et qu'on a regardé la forme qu'on a laissée dans la neige douce et profonde. Essayons de faire une photo de souvenir de ces empreintes que nous laissons dans le sol. On y reviendra plus tard, on la recontemplera plus tard, cette photo. Les conditions sont bonnes pour entamer la série des 7 micro-mouvements. Comme le nom le dit, ce sont des mouvements qui, à l'œil nu, sont invisibles. Donc, c'est des mouvements extrêmement discrets, petits. Chaque exercice, on va le faire une fois. Et chaque fois, il s'agit d'observer, pas tellement la question « qu'est-ce que je fais avec cet exercice ?» Mais qu'est-ce que cet exercice fait avec moi sur le plan corporel, respiratoire, peut-être même émotionnel. Comme tous les tissus de notre corps sont tissés ensemble, que ce soit la peau, les muscles, les ligaments, les tendons, les tissus conjonctifs, il n'est que normal que si quelque chose bouge quelque part, ça a des réverbérations, des conséquences ailleurs. Soyons attentifs aussi à ce qui se passe ailleurs que dans la zone du micro-mouvement actuel. Le premier mouvement consiste tout simplement à créer volontairement, exprès, une légère crispation dans le front. Ça revient à faire des rides de soucis, de froncer les sourcils. Mais attention, microscopiquement. Très très subtilement. supportant cette tension, gardons-la sans bouger, sans modifier quoi que ce soit, rentrant dedans et observant que probablement ça se resserre un peu dans les tempes, dans les sourcils, peut-être même dans la cervelle, entre l'arrière du crâne et le front, entre la tempe gauche et la tempe droite. L'espace diminue dans le haut du crâne, supportant cette tension créée artificiellement et observant comment ça respire, quelles sont les conséquences ailleurs, sur d'autres plans. Continuons à respirer quelquefois sans rien changer. Et seulement sur une prochaine grosse et copieuse et généreuse expiration, relâchons-nous dans ces tensions dans le front, dans les tempes, dans les sourcils. Laissons beaucoup d'espace à la cervelle dans sa coupe du crâne, dans cet espace entre les oreilles. Même les orbites des yeux, même les boules des yeux flottent librement et grand. Offrons-nous quelques respirations pour observer qu'est-ce que fait cette détente dans le front avec nous. Deuxième micro-mouvement concerne le bas de la tête, la moitié inférieure de la tête, c'est-à-dire la mâchoire. Serrons les dents, microscopiquement petits. Serrons un petit peu les dents. Les lèvres vont être pincées et se réduire à un trait. L'espace entre mâchoire du haut et mâchoire du bas est verrouillé, inexistant, cimenté. Je me durcis dans la langue, je m'étrique dans le palais et j'observe attentivement les conséquences dans toute ma personne quand je serre les dents pendant quelques respirations. Et profitant d'une grosse, grosse expiration suivante pour nous relâcher dans les mâchoires. Une articulation n'est rien d'autre que de l'espace. Créant de l'espace, laissant de l'espace s'installer entre mâchoire du haut et mâchoire du bas. Ça se détend probablement dans les mâchoires, dans les joues. Les lèvres reprennent leur plénitude, leur volume. La langue se blottit confortablement dans son palais confortable, prend de la place, prend ses aises. Et comment je me sens dans ma globalité quand je serre plus les dents. Ou disons un peu moins. Le troisième micro-mouvement a lieu à un étage plus bas, dans la ceinture scapulaire, les épaules. Toujours le même système. Je m'étrique volontairement et artificiellement dans la ceinture scapulaire. Je me referme dans les épaules. Microscopiquement, discrètement, avec délicatesse, invisible. Les omoplates forment un bouclier. Les clavicules sont soudées par les deux bouts à ce qu'il y a autour. Probablement, il y a des répercussions dans les bras, les mains peut-être, et certainement aussi dans les pieds. Pendant quelques respirations, supportant cette tension dans les épaules, où tout l'espace est réduit, étriqué. Commence à respirer si je suis crispée dans les épaules. Et quand nous le souhaitons, nous pouvons décider de nous relâcher dans les épaules. De nous détendre dans toutes les couches de tissu, dans la ceinture scapulaire. De laisser l'espace s'installer entre colonne vertébrale et sternum, c'est-à-dire le dos et le devant. Ce qu'on appelle en français une cage thoracique n'est plus tellement une cage, mais une ouverture dans laquelle le cœur peut prendre ses aises, les poumons, surtout les poumons. À l'école, j'ai appris que si on voulait étaler toutes les alvéoles des poumons, on recevrait une surface d'un demi-champ de foot. Pendant quelques respirations, offrant de l'espace à ce demi-champ de foot. Et notre voyage continue. On descend d'un étage et on va arriver à la hauteur de la ceinture, de la taille. Même si c'est pas franchement agréable, artificiellement, faisons un nœud dans le ventre. Une crispation dans le diaphragme, le plexus solaire. À l'image d'une ceinture trop serrée, qui nous coupe un peu le souffle. Maintenons cette crispation pendant quelques respirations, avec toutes ses conséquences, peut-être aussi ailleurs ou sur d'autres plans que le plan corporel. Et quel privilège sur une prochaine expiration, je m'offre ce luxe de laisser glisser cette ceinture trop serrée par terre. De laisser ce nœud dans mon ventre se dénouer. De laisser l'estomac et tous les autres organes dans mon milieu de corps prendre leurs aises, leur place, leur espace. Beaucoup d'espace. Notre voyage vers les profondeurs continue. Nous voilà dans l'espace du bassin, c'est-à-dire entre le bas du dos et le bas du ventre, entre la hanche gauche et la hanche droite. Et bien sûr, le plancher pelvien. Volontairement, artificiellement, rétrécissons-nous dans le bassin. Crispons-nous dans le bassin. Réduisons l'espace du bassin intérieur à une peau de chagrin. Concrètement, excusez-moi l'expression, ça revient à se retenir de faire pipi. Comment je me perçois si je me rétrécis dans mon bassin, supportant cet état d'être pendant quelques respirations, avec toutes ces conséquences que nous pouvons observer attentivement. Oh, quel privilège! La prochaine expiration me permet de me lâcher dans le bassin, de me relâcher, de me détendre dans cet espace central du hara. Entre sacrum et pubis, entre bas du dos et bas du ventre, waouh, il n'y a pas rien. Il y a de la place entre hanche gauche et hanche droite aussi. Et tout cet ensemble de plancher pelvien, racines des cuisses, je m'y relâche. Ça se peut que ça modifie ma perception de moi-même. Entre-temps, nous nous approcherons du sixième mouvement qui concerne les jambes. Et très délicatement, discrètement, invisiblement, je me réduis dans mes jambes à des petits bouts de bois mort, étriqués, secs, rétrécis, durs. Comment je me perçois si tout se rétrécit vers la moelle des os du fémur? Et du tibia et de l'autre os derrière. Difficile de supporter cette tension, c'est pas agréable, donc profitons de la prochaine expiration pour nous relâcher dans les jambes. Qui de redevient vivant, qui redeviennent vivantes. Comme un bois vert qui verdoie, où la sève circule. Comment je me sens si je me relâche dans les jambes? Si je laisse beaucoup d'espace dans les cuisses, dans les genoux, dans les mollets. Nous voici arrivés aux pieds. Évidemment, le même système. Invisiblement, j'imagine que je me rétracte dans les pieds, que tous les espaces entre les métatarses et toutes les petites osselets des orteils et tous ces os compliqués dans le talon se rétractent, les espaces entre les os se diminuent et je me supporte sur petits pieds pendant quelques respirations. grâce à une grosse, grosse expiration complète et généreuse. Je me relâche dans mes pieds, je me laisse étaler, je me laisse décroqueviller dans les orteils. Je prends beaucoup de place, je vis sur grands pieds. Profitant des quelques prochaines expirations pour de manière générale, nous laisser davantage porter par le sol, toucher par le sol. Et le moment est venu pour se demander, tiens, tiens, comment est mon empreinte dans la terre maintenant? De quel poids, de quelle forme, de quelle taille, de quel volume? Je me confie à la terre, de la tête aux pieds. Il peut être intéressant de comparer ma manière de me laisser porter maintenant avec ma manière de me laisser porter de avant les 7 micro-mouvements. Peut-être il y a des différences, peut-être non. Peut-être il y a plus de surface qui touche le sol, peut-être moins. Peut-être je sens rien. Quoi qu'il en soit, soyons sincères avec nous-mêmes. Quoi qu'il en soit, avec un tout petit peu d'imagination, nous pouvons nous transformer en poumons géants. Pas seulement que nous avons des poumons, mais que nous sommes un poumon dans exactement notre forme. Moi, dans ma forme de Utah. Et offrant du temps et de l'espace à ce poumon géant qui inclut autant les petits orteils que les bouts des oreilles, à respirer librement, à vivre sa vie. Si les vrais poumons anatomiques déjà couvrent un demi-champ de foot, quelle surface énorme est en train de respirer, c'est-à-dire de vivre maintenant. À défaut de pouvoir nous balader dans les espaces extérieurs, nous avons toute la liberté pour nous promener dans nos espaces intérieurs. Qui veut rester couché et peut-être même s'endormir, tant mieux. Bon repos. Et qui veut se lever ou qui doit se relever, doit le faire avec beaucoup de délicatesse, simplement en commençant à bouger un petit peu les orteils, les doigts, les yeux, ainsi je peux reprendre contact avec ce que je peux voir de là où je suis. Je peux observer comment je commence à bouger, où ça commence, comment ça commence, comment ça commence à gagner tout mon corps. Probablement, je vais bâiller et m'étirer comme un enfant qui se réveille d'un bon dodo réparateur. Et maintenant, c'est l'aventure. Chacun aura une autre stratégie, un autre chemin, une autre technique pour se rouler sur le côté, pour se mettre en boule. S'asseoir et se mettre debout. Que chacun se prenne le temps qu'il veut, qu'il a besoin, qu'elle a besoin. Et une fois debout, le contact avec le sol n'est ri est réduit au strict minimum, le contact des pieds avec le sol. Profitant de quelques respirations à explorer notre verticalité. Et que chacun, chacune, quand et comme il veut, clôture avec un petit rituel individuel, personnel, avant de retourner dans le quotidien. Un grand merci pour ce partage.